On fait un point environnement, espace naturel sur l'île-Dieu avec Valérie Oriot, conseillère déléguée aux espaces naturels Natura 2000 à la mairie de l'île-Dieu. Bonjour.
Bonjour Roland.
Delphine Villarbu, animatrice Natura 2000 du site terrestre Côte Rocheuse d'une lande et marée de l'île-Dieu à la mairie de l'île-Dieu. Bonjour.
Bonjour Laurent.
Oh là. Une aire marine éducative est en place sur l'île Dieu au Marais Salé. Valérie, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'une AME pour aire marine éducative ?
Alors, c'est ce que tu viens de dire, donc une aire marine, voilà, qui a pour but de mettre en fait l'éducation, on va dire, on peut dire ça comme ça, puisqu'elle a été créée donc en 2024 avec les élèves de 6e du collège des Sicardières. Tout ça grâce à la mobilisation en fait d'un professeur, donc Madame Augereau, une animatrice Natura 2000 en mer qui est Julie Caclard. On a Elsa Cariou qui est référente de l'université pour Odyssée Île à l'île-Dieu. Et Sandrine Desmarais aussi qui est naturaliste sur Yeux. Cette aire marine a pour objectif de s'approprier un territoire qui est défini parmi plusieurs en fait. Et celui que les élèves ont retenu, c'est le site du Marais Salé. Alors, en partie, plutôt la partie gauche, quand on regarde la mer, voilà. Mais bon, je pense qu'ils vont étudier un petit peu tout cet environnement. Pour soutenir ce projet, c'est l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui est là au niveau soutien financier. Et la mairie, en fait, elle est partenaire pour tout ce qui est soutien logistique et la communication. Donc, c'est pour ça qu'on en parle un peu aujourd'hui.
Cette aire marine éducative, ces jeunes, ils y font quoi ?
Alors du coup, ils vont, avec leurs professeurs et puis les partenaires qui sont avec eux, ils vont s'approprier ce territoire, ils vont apprendre, ils vont avoir des connaissances sur cet environnement, sur la faune, sur la flore. Par exemple, à cet endroit-là, il y a un intérêt, par exemple, on a des abeilles sauvages à cet endroit, au niveau de la plage et de la dune. Ils vont travailler sur l'estran, tout cet environnement. Donc, ils vont acquérir des connaissances et ils vont être aussi force de proposition pour nous donner peut-être des moyens de communiquer, informer les gens sur cette partie de l'île. Et en fait, ce travail, il sera aussi relayé. C'est-à-dire qu'à la fin de leur cursus de 6e, les informations qu'ils auront récoltées ne seront pas perdues puisqu'ils vont avoir un travail de relais avec la future classe de 6e qui viendra l'année suivante. Donc, c'est un projet qui est menée déjà aussi avec d'autres. Il y a d'autres AME qui existent. Entre autres, il y en a une à Saint-Jean-de-Mont qui existe déjà depuis 3 ans. Donc, c'est aussi pour eux l'occasion d'échanger avec d'autres territoires. C'est découvrir le territoire, s'approprier, puis être acteur, en fait. Être pas juste spectateur, mais vraiment être acteur aussi. Ils ont sûrement des idées avec leurs professeurs. Ils vont apprendre des choses. Ils vont nous faire un retour. Donc, il y aura des retours de cette aire marine éducative sur l'île-Dieu.
Est-ce que ces jeunes vont rendre des constatations publiques ou c'est pas prévu ?
Si, c'est prévu. Je pense que voilà, nous, on va les aider dans la communication. Donc, il y aura peut-être une soirée qui sera faite pour, je sais pas. Enfin, voilà, tout est pour l'instant, c'est
tout est envisageable.
Tout est envisageable et voilà, ils viennent de commencer, donc je suis pas sûre qu'ils arrivent à tout mettre cette année. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment que ça dure pas qu'une année. C'est vraiment, ça va être en continuité. Ça va être un projet durable.
Delphine Villarbu, des protecteurs de l'environnement seront-ils présents sur l'île-Dieu pour cette saison 2025 ?
Comme depuis plus de 15 ans maintenant, et surtout comme l'année 2024, donc on aura 3 protecteurs sur juillet-août 2025. Donc 2 protecteurs financés via le programme Natura 2000, donc par la commune de l'île-Dieu, et un protecteur supplémentaire, comme l'année dernière, financé par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Donc 2 mois juillet-août, travail en binôme tous les jours. On cherche une nouvelle équipe pour 2025.
Vous recrutez ?
On recrute, exactement. Donc tous les CV sont les bienvenus au service environnement de la mairie de l'île-Dieu. Et donc un travail super intéressant parce que on parcourt l'île en vélo, à pied pour sensibiliser les gens. Et puis avec l'arrivée du troisième protecteur et la partie marine, on fait même du kayak. Donc, on va se balader en kayak sur les herbiers de Zooster, sensibiliser les plaisanciers. Donc des missions plutôt sympathiques et intéressantes qui en font le plus beau métier du monde.
Leur rôle, c'est vraiment l'éducation de tous les publics.
Voilà, c'est vraiment de la sensibilisation.
Pas rouler sur la côte, par exemple, en vélo.
Exactement, pas mettre son vélo n'importe où, pas rouler n'importe où, pas déposer ses déchets n'importe où. Il y a plein de questions comme ça un peu de suivi scientifique aussi, sur des missions que nous, on mène en mairie. Et de la sensibilisation, voilà, aussi aux usagers de la mer.
Est-ce que ces protecteurs de l'environnement sont bien acceptés de la population ?
Ils sont là depuis plus de 15 ans, donc même la population les attend un petit peu cette année. Ils tiennent pas mal de stands sur le domaine public, que ce soit sur la place du marché, que ce soit la capitainerie, sur les espaces naturels, au camping. Et du coup, les gens viennent plutôt les voir pour justement prendre des informations sur l'environnement, sur l'île.
Valérie Oriot, la campagne d'enlèvement des bateaux sur la dune lancée en 2024 se poursuit-elle en 2025?
Oui, on continue. En fait, on maintient en fait cette veille hein, sur les embarcations qui empiètent sur les espaces naturels et qui abîment la dune. Et donc, au final, qui asphyxie cette végétation qui, je le rappelle, cette dune est un premier rempart justement contre les problèmes d'érosion et en partie sur une certaine partie de nos côtes de l'île. Donc on a tout intérêt à vraiment faire très très attention à ces dunes. Et donc voilà, on considère que les gens qui ont des embarcations n'ont pas à les laisser toute l'année, surtout sur ces espaces naturels. Donc en fait, on procède. Déjà, on prévient en fait les propriétaires avec un système d'affichage sur l'embarcation. Et si vraiment on n'arrive pas à trouver le propriétaire ou si on voit que l'embarcation ne bouge vraiment pas, du coup, généralement, on procède à son enlèvement.
Ces bateaux, ils vont où quand vous procédez à ces enlèvements ?
On les stocke. C'est vrai que c'est pas ce qu'on souhaite parce qu'on n'a pas forcément vocation à prendre ce genre de matériel. Hein. C'est vraiment, on essaye vraiment de communiquer d'abord avec la personne pour qu'elle le retire et qu'elle le ramène chez elle puisque normalement c'est des embarcations qui sont assez légères et donc qui sont faites pour être réembarquées. Après c'est un lieu de stockage et au bout d'une année normalement voilà, si personne n'est venu réclamer quoi que ce soit, c'est un objet qui peut être détruit en effet.
Cette campagne d'enlèvement des bateaux, c'est sur l'ensemble des lieux ?
Oui, sur l'ensemble, oui.
Notamment à Kerchalon ?
Alors, il y a Kerchalon, mais c'est surtout sur les domaines où ça pose problème, parce que c'est vraiment...
Ça pose problème où alors ?
Alors, ça pose problème sur ces dunes. En fait, c'est là où on voit toutes les espèces, toutes les plantes, les zoyas, les plantes qui essayent de pousser entre le sable, vraiment la plage... qui, elle, est vraiment faite que de sable, et après, la portion de... le début de la végétation qui fait cette dune, et c'est cette partie-là, en fait, qui est très, très fragile. Et voilà, si vous mettez une embarcation qui fait 3-4 mètres de long et qui étouffe la végétation en dessous, ben voilà, c'est déjà... c'est comme si ça se créait un rocher, en fait. Donc, ça fait une zone d'érosion... C'est vraiment pas bon, et puis ça fait des trouées dans la dune, et donc c'est propice à de l'érosion en fait derrière.
En 2024, est-ce que vous avez enlevé beaucoup de bateaux ?
Il y en a eu quelques-uns, oui, pas mal d'enlevés. Je pense que là, maintenant, c'est pour ça qu'on va plus être sur une veille. On va être là à surveiller, mais je crois que la plupart des personnes, quand même, ont compris le message, ils ont vu qu'on était là. Souvent, c'est la police qui intervient, la police de la commune.
La police municipale ?
La police municipale. Voilà, essaye vraiment d'être dans la communication, de trouver la raison, de trouver une solution. Voilà, on n'est pas.
Ces bateaux enlevés, ils étaient stockés où sur l'île-Dieu ? Sur quelle plage, notamment ?
Bah, en fait, c'est sur toute cette partie de la côte côté continent, parce que c'est là où il y a le plus d'érosion. Les autres parties, c'est des plages plus fermées en criques avec de la roche, et souvent il y a des cales. Moi, je pense par exemple à la plage des Sabias, voilà, il y a des cales et donc les annexes se sont posées sur la cale, sur le côté de la roche, donc ça pose moins de soucis.
Rien à voir, Delphine Villarbu, où en est le dossier de réhabilitation des marais ?
Alors, on est évidemment toujours en train de travailler sur ce dossier-là. Donc là, on va parler essentiellement du marais de la Guerche et du marais de la Croix. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une politique de préemption par le département sur tous les espaces naturels sensibles dont font partie tous les marais arrière-littoraux du territoire. Et donc, sur ces deux marais-là, la Guerche et la Croix, le département a déjà préempté une partie des propriétés foncières. Du coup, on est toujours à la recherche hein, des propriétaires qui voudraient vendre leur parcelle au département. Donc, c'est 1 euro du mètre carré. C'est le prix voilà, qui est fixé sur tous les espaces naturels sensibles sur l'île. Donc, voilà, en termes de travaux...
Et si les gens ne veulent pas vendre ?
Si les gens ne veulent pas vendre, ils ont dans la logique l'obligation d'entretien de leur parcelle. Donc, ils doivent entretenir les fossés, entretenir entretenir la végétation, etc., etc. Le but, il est vraiment de restaurer et de réhabiliter ces marais, qui ont un intérêt évidemment écologique, mais aussi un intérêt hydraulique. Ils servent à empêcher, par exemple, les inondations de certaines rues. Il y a une histoire aussi de moustiques. Il y a pas mal de propriétés sur ces marais-là, ce qui en fait des milieux super enrichissants, super diversifiés en termes d'habitat, en termes de faune-flore. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à les remettre en eau, à les réhabiliter. Et donc, on a commencé des travaux qu'on a fait en 2022 et 2023. On a arraché du bacaris, on a curé des fossés, on a créé un îlot pour les oiseaux, on a créé des fosses à anguilles, mais ça uniquement sur les parcelles propriétaires du département ou de la mairie. Donc, il faut vraiment qu'on avance sur cette prospection foncière pour acquérir plus de terrain et avancer sur ces travaux-là.
Vous avez beaucoup de propriétaires à contacter ?
Souvent, oui, ce sont des parcelles, on va dire, familiales, héritées, donc avec plus de 20 propriétaires sur chaque parcelle. Et il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord pour que la vente ne se fasse pas. Ou après, il y a des gens qui souhaitent les garder aussi, et ça, c'est leur droit, leur avis, bien sûr. Après, voilà, il faut un minimum les entretenir, et ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent à faire un peu de travaux aussi.
Delphine, vous nous avez parlé de cette réhabilitation démarrée depuis 2022-2023. Ça va se terminer quand ?
Bonne question. Sûrement dans très très longtemps. Donc tout est lié au foncier, forcément. Après, on va avancer, on va essayer de faire des études un peu plus globales en termes d'hydraulique pour savoir comment, on va dire, les faire fonctionner dans les années à venir. Quel habitat, quel milieu on veut conserver, comment gérer le problème hydraulique, les inondations, les écluses qui existent. On va essayer d'avancer, nous, de notre côté, pour vraiment connaître les travaux à prévoir dans les années à venir.
Le coût également ?
Le coût aussi, bien évidemment.
Pris en charge par la mairie ou par le département ?
On va essayer de rechercher des subventions plutôt. Hein, on travaille.
C'est le nerf de la guerre.
Évidemment, sauf que les subventions d'environnement en ce moment, c'est pas. Elles sont pas très nombreuses, on va dire.
Comme un peu partout actuellement.
Ouais, c'est ça. Mais on va donc essayer forcément de monter des dossiers de subventions. Et on travaille sur ces dossiers-là avec le CEN aussi des Pays de la Loire, donc le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire.
Valérie, la commune de L'Île-Dieu a-t-elle commencé à travailler avec le consortium éolienne en mer L'Île-Dieu et Noirmoutier sur les futures mesures de compensation liées à la construction et à l'exploitation de ce parc éolien en mer ?
Alors oui, on est en travail là avec eux depuis la fin de l'année dernière et la LPO aussi qui nous aide.
LPO, c'est la Ligue
protectrice des oiseaux, voilà. Donc, qui concerne en effet l'impact que ces éoliennes pourraient avoir sur la faune, et entre autres
Études ont déjà été faites, non ?
Alors, il y a des études en fait par rapport à eux, pour leurs travaux qui sont faits en cours sur l'acoustique, au niveau des sons, le dérangement pour les mammifères marins. Pendant la phase de travaux, en fait, il y a toute une procédure. Mais là, ils se rapprochent de nous parce que bientôt, les éoliennes vont être en fonction.
C'est pour ça que j'ai parlé d'exploitation.
Ouais, et du coup, il y aura de toute façon un suivi pérenne. Tant que les éoliennes seront en place, il y aura un suivi de la faune et de la faune. Donc, pour entre autres, du coup, une colonie, la colonie de goélands qu'on a sur l'île-Dieu, sur la côte sauvage. Et qui est aux alentours de l'ancienne carrière. Donc, ils nous aident là-dessus. Et surtout, on est en train de la mettre en place une communication. Donc, ça peut être sur site. Tout n'est pas encore finalisé. Donc, on n'a pas tout. Mais là, on a travaillé sur un flyer, en fait, un petit prospectus qui pourra être disponible à certains endroits un peu spécifiques de l'île. Voilà, c'est pas pour distribuer à tout le monde pour que ça finisse à la poubelle, mais c'est vraiment, par exemple, des gens qui se poseraient des questions en venant à l'office du tourisme, en venant à la mairie, avec les protecteurs de l'environnement cet été, ça sera intéressant. Donc on travaille surtout sur pour l'instant, une communication pour expliquer à quoi elle sert cette colonie de goélands et qu'elle est importante à protéger.
Pourquoi elle est importante à protéger et elle sert à quoi ?
Elle sert à quoi ? C'est des espèces, c'est des oiseaux sauvages. On a l'impression que nous, à L'Île-Dieu, on est peut-être, il y a des gens, en effet, dans le petit flyer, là, justement, il y a un petit encart qui explique « Oh oui, mais on est envahi de goélands. Le goéland a très mauvaise réputation, sauf qu'en effet, il est présent chez nous et il n'est pas présent ailleurs. Si on commence à dire qu'on est envahi par ces oiseaux-là, faut savoir qu'ils sont là, ils sont pas, c'est pas eux qu'on va les retrouver en pleine terre sur le continent. Et puis, ils ont leur rôle à jouer, comme tout oiseau, enfin, comme toute espèce sur le territoire. Et donc, en effet, on a un rôle de protection au niveau de la nidification pour que tout se passe bien. Et contrairement à ce qu'on pense, ils sont très malmenés, en fait, les goélands. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, il y a une surveillance qui est faite depuis très, très longtemps. Nous, déjà, avec la LPO aussi... comme moi j'en fais partie, on a un suivi tous les ans avec des sessions de bagages qui sont faites et c'est une population qui ne va pas en grandissant.
D'autres programmes de compensation avec le consortium éolien en mer l'île du Noirmoutier ?
Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment finalisé. On ne peut pas à ce jour vous donner plus d'informations. On essaye de voir avec eux ce qui est possible d'être fait en plus.
Valérie Auriot, avant de se dire au revoir, comment se fait le traitement des nuisibles, notamment rats, frelons, par exemple sur la commune de Lille-Dieu ?
Alors, on a toujours un partenariat entre la mairie et puis une entreprise de Lille. On vient de faire d'ailleurs dernièrement un point avec eux sur l'année passée. Donc, au niveau des rats, il y a toujours des boîtes qui sont alimentées. Donc là, il va y avoir prochainement une campagne qui va être faite fin mars.
Il y a beaucoup de rats sur l'île ?
Il y a toujours beaucoup de rats. De toute façon, il faut se le dire. Hein. Je veux dire, les rats ne seront jamais exterminés sur l'île-Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de maintenir, en tout cas, de que ça ne prolifère pas non plus à outrance.
Ils se trouvent où, ces rats ?
Partout. Ça peut être aussi bien aussi sur la côte sauvage. Ça peut être près en effet des habitations, parce que faut bien se le dire, c'est quand même aussi lié à des fois des mauvaises actions humaines, qu'il y a des gens, enfin il y a des personnes qui disent ah ben moi j'ai beaucoup de rats chez moi, mais bon voilà, après...
C'est à cause des composteurs, non ?
Il peut y avoir des composteurs, mais il peut y avoir aussi des déchets qui peuvent être posés ça et là, il peut y avoir... Il y a plein de choses, avec plein de profils possibles. Donc c'est pour ça, on vous invite aussi à aller vous renseigner sur les actions qui sont à mener pour éviter d'avoir des rats aussi chez vous. Parce que
où se renseigner ?
Alors, il y a des sites. Je pense que, voilà, ça a été mis pas mal de fois sur le site de la mairie. Il y a eu des renseignements qui ont été mis. Vous pouvez aussi vous renseigner au service environnement, ce seront de bons conseils. Il y a des fois des réunions qui sont faites aussi, peut-être pour trouver des solutions. Bon, faut savoir que, en tout cas, la mairie travaille en collaboration avec cette entreprise. Alors, moi, j'ai un message à faire passer parce qu'on a discuté avec eux. En fait, ils disposent des boîtes. Et ces boîtes, c'est important.
Des boîtes à rats,
les boîtes noires qu'on voit là. Donc, dedans, ils mettent des blocs. C'est des blocs, en fait, de graines. Donc, il n'y a pas de danger pour que si, par exemple, vous bougez la boîte, il n'y a rien qui va tomber puisque c'est quelque chose de solide qui est à l'intérieur. Et surtout, en fait, il ne faut pas toucher ces boîtes. Parce qu'en fait, si on touche ces boîtes, si on les déplace... les rats, en fait, c'est des animaux qui sont généralement, enfin, sont pas si bêtes que ça.
Plutôt intelligents.
Plutôt intelligents. Et en fait, si vous bougez les boîtes, les rats le savent, le sentent, et du coup, ils vont mettre 3 à 4 jours avant de revenir et de nouveau avoir confiance et à pouvoir essayer de rentrer dans la boîte. Donc, on perd de l'efficacité si ces boîtes sont manipulées trop souvent.
Ces boîtes se trouvent où sur l'île-Dieu ?
Partout, sur le territoire. Partout, voilà, elles sont postées. Et puis, du coup, il s'est référencé. L'entreprise qui s'en occupe, justement, met à des points stratégiques, fait des repères, tout est référencé chez eux. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas les bouger. Parce que, voilà, après, ils ne les retrouvent
pas.
C'est des boîtes noires, de toute façon. Et c'est bien marqué dessus, voilà, que c'est pour la dératisation.
Et les frelons ?
Alors, les frelons aussi, on a une plutôt bonne nouvelle pour l'année 2024. C'est qu'apparemment, ce n'est pas lié qu'à l'île-Dieu. Hein, c'est apparemment je ne sais pas si je peux élargir jusqu'à l'Europe, mais en tout cas en France, ils nous ont dit que, voilà, il y avait eu vraiment une grande, grande baisse d'appels et en tout cas de présence de frelons asiatiques. Sur l'île-Dieu, ils ont été beaucoup moins sollicités, beaucoup, beaucoup moins.
Comment ça s'explique ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément toutes les explications.
Est-ce que c'est lié à...
Ouais, c'est quand même un point d'interrogation. On peut quand même se dire que voilà, il y a quand même eu une année particulièrement humide, pluvieuse, voilà, qui a peut-être pas été propice. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la vigilance des personnes qui ont aidé. C'est-à-dire que on a aussi beaucoup sollicité. On en a beaucoup parlé dans les médias. Les gens se sont peut-être un petit peu intéressés au problème et donc, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont mis des pièges. Est-ce que ça a marché ou pas ? Est-ce que les pièges sont plus efficaces ? C'est possible aussi. Il y a peut-être une amélioration là-dessus.
Est-ce que vous avez eu beaucoup de remontées d'informations par rapport à ces frelons des habitants de l'île-Dieu ?
Alors, il y a eu des appels, mais pas beaucoup, en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de présence de nids cette année. En tout cas, pas beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Et voilà, ce qu'il faut continuer à faire, et surtout, c'est être vigilant là, au moment du printemps, parce que là, les reines vont sortir, et c'est là où elles vont vouloir monter une colonie. Et pour monter une colonie, elles vont construire un petit nid, ce qu'on appelle les petits nids primaires, qui font la taille à peu près d'un pamplemousse. C'est comme si vous coupiez un pamplemousse en deux. Voilà, c'est un petit peu une alcôve renversée. Et c'est ces nids primaires qui sont importants à trouver, parce que en fait, alors ils sont difficiles à trouver aussi parce qu'ils sont plus petits, mais en fait, cette reine, elle va mettre au monde une quinzaine ou une vingtaine de futures ouvrières qui va s'atteler à construire le gros nid que l'on trouve généralement dans les arbres qui sont énormes, qui peuvent faire presque des fois jusqu'à 1 mètre.
On rappelle qu'il ne faut pas les toucher.
Il ne faut surtout pas les toucher. Il faut les appeler parce qu'en fait, la différence, parce que l'année dernière, on a eu ça.
D'ailleurs, il faut appeler la mairie de Lille-Dieu, l'entreprise.
Vous pouvez appeler la mairie de Lille-Dieu qui peut vous renseigner au niveau service environnement, mais qui va aussi vous diriger vers les entreprises de Lille qui interviennent et qui vont, eux, vous aider à faire la détermination entre le frelon asiatique et le frelon européen. Attention, le frelon européen, il faut le conserver, il fait partie de nos espèces à nous, voilà. Donc, et c'est très très difficile de faire la différence entre le nid primaire asiatique et le nid primaire européen. Donc surtout, de toute façon, sur un nid comme ça, ne pas intervenir tout seul. Ouais.
Valérie Oriot, conseillère déléguée aux espaces naturels et Natura 2000 à la mairie de Lille-Dieu, merci beaucoup.
Merci Roland.
Delphine Villerbu, animatrice Natura 2000 du site terrestre Côte Rocheuse, Dunes, Landes et Marais de Lille-Dieu à la mairie de Lille-Dieu, merci beaucoup.
Merci Roland.